Pendant que nous nous préparons à écouter Dieu parler à nos cœurs, nous allons lire Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17 nous dit ce qui suit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est pourquoi nous allons incliner nos têtes dans la prière. Pendant que nous apprêtons nos cœurs à écouter la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous aider d'être de bonnes terres, d'être disposés à se soumettre à l'autorité de Dieu et à l'autorité de sa parole, pour que tout ce qu'il va nous communiquer, nous soyons disposés à les mettre en pratique. C'est pourquoi tu vas faire cette prière, tu vas demander à Dieu de mettre quelque chose de nouveau sur ton cœur. Tu as besoin de Dieu. Tu es venu dans la présence du Seigneur ce jour. C'est parce que tu as besoin de lui. Tu n'es pas venu écouter un homme à ces lieux parce qu'un homme n'a rien à te dire. Parce qu'il est limité autant que toi. Mais tu es venu à la rencontre de Dieu qui connaît bien tes besoins. Qui connaît bien les désirs de ton cœur. C'est pourquoi tu vas prendre ce moment, demander la grâce de Dieu. Demander au Saint-Esprit de te visiter particulièrement dans ces cultes et particulièrement à ce moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous voici arrivés à ce moment crucial de ce culte, de ce grand rendez-vous de rencontre avec toi. Oui, par ton entrée à Jérusalem, cette ville n'est jamais restée la même. Tu as fait la rencontre avec plusieurs personnes. Et ta présence dans leur vie, dans leurs affaires, n'a jamais laissé tout ce qui a eu lieu comme contact intact. Et à ce moment particulier où nous voulons t'écouter, à travers ton serviteur, que tu t'es choisi du milieu de nous pour nous communiquer la vie, la vérité. Nous voulons que tu nous disposes, que tu rendes vraiment nos cœurs sensibles à ta parole. Cher Saint-Esprit, prends en charge ces moments. Tu maîtrises bien le besoin de chacun de nous. Tu connais mon besoin. Seigneur, je prie que tu libères ta parole avec puissance et autorité et que nous tous, nous soyons soumis à toi et à la vérité de ta parole. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Nous avons besoin, Seigneur, d'être accompli pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous prions que tu nous rendes disponibles à être corrigés par toi, à être enseignés par toi, à être instruits par toi. Nous nous abandonnons à ta grâce. Merci de soutenir ton serviteur et de l'utiliser comme un vase rempli par toi pour ta toute grande gloire. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous te prions parce que nous croyons que tu prends le total contrôle de ces moments et de tous les restes de ces cultes dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue aux serviteurs de Dieu pour nous partager la parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 21, le verset 1er jusqu'au 11e. Nous allons aussi lire Luc, chapitre 10, 17 à 20. Matthieu, chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 11. Luc 10, 17 à 20. Je vais conduire la lecture. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. S'il vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète, dites à la population de Sion, regarde ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et le mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population s'est mise à s'agiter. « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens. Luc chapitre 10, les versets 17 à 20. Luc 10, les versets 17 à 20. La parole de Dieu dit ce qui suit. « Les 72 envoyés revinrent plein de joie et dire, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres à ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre séminaire, nos enseignements par rapport à cette semaine pascale, la semaine pendant laquelle nous nous souvenons de la souffrance, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous appeler à un sujet intitulé « La joie du disciple obéissant à la voix de Jésus-Christ ». La joie du disciple obéissant à la voix de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous devons savoir que si le Seigneur nous fait participer à sa mission, c'est une grâce. C'est un privilège. Nous avons un grand privilège lorsque le Seigneur peut décider de nous faire participer à sa mission. Ce n'est pas à dire que le Seigneur est incapable de faire cette mission. Ce n'est pas à dire que le Seigneur est incapable d'opérer des miracles, que les gens se convertissent d'une manière miraculeuse, mais il nous fait participer. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Ça, c'est une joie que nous avons. C'est un privilège que nous avons. Nous venons de lire dans le livre l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 21, le verset 1er jusqu'à 11. C'est un récit qui parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus entre à Jérusalem d'une manière triomphale. Et ceci, selon la Bible, cet événement se passe le dimanche avant la Pâque. Et ça s'appelle dimanche des rameaux. Cet épisode est relaté dans tous les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont des récits qui montrent que l'événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem est très important. Non seulement pour les hommes et les femmes de cette époque-là, ou l'époque de Jésus sur la terre, mais aussi c'est très important pour tous les chrétiens de toute l'histoire. Vous savez, souvent nous disons que la semaine pascale, c'est la semaine sainte, c'est la semaine de la passion, c'est la souffrance de Jésus-Christ. Mais peut-être nous pouvons avoir une autre lecture de cette semaine, la joie dans la mort de Jésus-Christ. La joie qui se retrouve dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. Quand Jésus entre à Jérusalem, il y a la joie. Il entre comme un roi. Cette joie-là inaugure la joie de la résurrection. Normalement, le jour de Pâques, ce n'est pas un jour de pleurs. Ce n'est pas un jour de voir, oh Jésus, il a souffert sur la croix. Oui, c'est vrai, il a souffert sur la croix. Mais après cette souffrance, la souffrance a été couronnée par la joie de la résurrection. Pourquoi la Pâque doit être une joie? Si nous allons dans l'Ancien Testament, la Pâque, chez les Juifs, la Pâque c'est une fête, une commémoration que Dieu lui-même avait demandé. Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël qu'ils doivent commémorer la Pâque. Commémorer la Pâque, ça symbolise la délivrance des enfants d'Israël de la servitude. D'abord, de la mort des premiers-nés, et ensuite, de la délivrance lorsqu'ils sortent de l'Égypte d'une manière miraculeuse, et le Seigneur dit, vous devez commémorer la Pâque. Vous commémorerez la Pâque parce que vous allez vous souvenir que vous avez été esclave en Égypte et que par la main puissante, Dieu vous y a fait sortir. Et vous devez commémorer la Pâque. Oui, ceux-là qui sont sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan, ils ont souffert.
Mais ceux-là qui commémorent,
ce n'est plus commémorer la souffrance, c'est commémorer la
résurrection,
si je peux le dire comme ça. Parce qu'ils étaient considérés comme morts, les esclaves. Alors, ils doivent maintenant commémorer. Ils doivent être contents. Ils doivent être ragaillardis de joie parce qu'ils ont été libérés de la servitude. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas pour rien que le Seigneur aussi a choisi ce kairos, ce moment précis pour mourir le jour de Pâques. Pourquoi? Parce que l'œuvre qu'il va faire, l'œuvre qu'il va accomplir, c'est une œuvre de libération. Une grande œuvre de libération pour que nous puissions avoir la vie. Nous qui étions errants comme des brebis, cette œuvre-là, Dieu l'utilise pour nous rassembler, afin que nous puissions encore devenir ses enfants. Alors Jésus, lorsque il entre à Jérusalem, la Bible a dit, il est assis sur un anneau. Cet anneau-là ne lui appartenait pas. C'est emprunté cet anneau-là, et l'anneau n'était jamais monté. Il n'y avait personne qui était déjà monté sur cet anneau-là. Alors Jésus monte sur cet anneau. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple, les disciples, ils étalent leur tunique par terre. Jésus s'assoit sur les tuniques qui ont été aussi étalées sur le dos de cet anneau-là. Le palmier, on les a étalés par terre. C'est-à-dire, c'est un événement qui a montré que Jésus-Christ est roi. C'est un roi qui vient au nom du Seigneur. Et c'est ça la signification de Hosanna. Béni soit le Seigneur qui nous sauve et qui vient au nom du Seigneur. Alors, quand il arrive en Jérusalem, même s'il vient comme roi, il part au temple où il enseigne, où il guérit les malades, où il chasse les marchands, échangeurs de monnaie, qui avaient fait de cette maison du Père une caverne de voleurs. Bon, on peut toutefois se poser des questions, comment les gens dont les têtes réfléchissent comme il faut peuvent faire du temple un marché. On peut quand même aussi se poser cette question-là, parce que souvent nous lisons, on dit Jésus avait chassé les commerçants dans le temple. Je ne sais pas si les gens peuvent venir de Birere, les gens peuvent venir de Virunga et venir étaler leurs marchandises ici, à l'église, au temple. Jésus est venu chasser les gens qui faisaient ça. En fait, c'était une pratique qui était presque autorisée. Pourquoi? Parce que dans les temples de Jérusalem, on ne pouvait pas venir avec une offrande. Si c'est de l'argent, il n'était pas permis de venir avec une monnaie étrangère. On considérait que ta monnaie qui est étrangère ne peut pas être agréée par Dieu parce que c'est une monnaie païenne. Et il n'y a que la monnaie juive qui peut être acceptée par Dieu. Si tu n'as pas la monnaie, alors pour que tu sois à mesure de donner l'offrande et que ton offrande soit agréée, il fallait qu'il y ait des gens qui vont pratiquer l'échange. Il fallait qu'il y ait des échangeurs là, à la porte du temple. Et jusque-là, ce n'était pas mauvais. Selon la religion. Le problème, c'est que, à un moment donné, le clergé qui s'occupait de ces choses-là, ceux-là qui s'occupaient de cette affaire-là, ont commencé à jouer à la psychologie des gens. Tu viens de telle part avec une telle monnaie, on te hausse le taux. Si c'était 2700 comme aujourd'hui, alors on te dit, bon, comme tu as une monnaie qui vient de l'Égypte,
Kwanza kule tuliteseka, ça sera 5000. Voilà le vol. Et Jésus, quand il arrive, il dit, non, non, vous avez fait de la maison de mon père une caserne de voleurs. Et si tu n'as pas de monnaie, tu devrais venir avec une brebis. Tu viens avec une brebis et il y a des caractéristiques pour cette brebis que tu dois amener. Elle devait, par exemple, être une brebis monocouleur, qui ne devait pas avoir une tache. Ou bien, il ne faudrait pas que ça soit une brebis qui boite. Alors, quand tu y arrives, il y avait des gens qui n'avaient que cette brebis qui boite. Mais tu dois être reçu aussi par Dieu. Alors, le clergé dit non, non. Pour que tu sois accepté par Dieu, nous allons faire un service d'échange. Tu arrives, tu donnes ta brebis qui boite, qui ne peut pas être offerte, et on te donne une bonne brebis qui remplit les conditions. Jésus y est arrivé quand les clergés ou les membres qui y étaient commençaient à dire, comme ta brebis boite, au lieu que nous te donnions une brebis contre une autre brebis, nous te donnons une brebis et tu vas chercher deux autres brebis qui boitent. Comme ça, ça va faire une bonne brebis. Voilà pourquoi Jésus a chassé les gens au temple. Un endroit où c'est prévu qu'il y ait la justice. Mais Jésus a vu qu'il y a maintenant de l'injustice. Les gens deviennent des bandits au niveau du temple. Ça devient du commerce. Et voilà, c'est pourquoi on dit que Jésus a chassé les gens au temple. Mais les gens qui réfléchissent comme il faut ne pouvaient pas venir vendre au temple. Ils peuvent venir vendre au temple. Souvent, quand nous voyons des films de Jésus, oui, c'est vrai, on voit les pigeons. Les pigeons, c'était aussi un animal qui était autorisé. Il y a aussi des tomates qu'on voit souvent là. Ça, c'est l'empellissement de l'auteur du film. Il peut mettre tout ça, il met autre chose pour vous montrer que réellement, les gens étaient déjà au temple et ils faisaient du commerce au temple. Mais les gens qui réfléchissent ne peuvent pas venir au temple. Et surtout les Juifs qui considéraient les lieux du temple comme un lieu très... On ne peut pas faire du n'importe quoi au temple. Alors malheureusement, quelque chose qui était bon, ça a changé. Ils ont changé. Alors Jésus, quand il entre à Jérusalem, ça montre qu'il veut maintenant que les gens voient que c'est lui le roi, le Messie qui monte sur un anneau. En fait, tous les protocoles qu'on a fait pour Jésus ce jour-là, ce sont les protocoles qui sont toujours faits pour les rois dignes, les rois qui sont respectés et respectueux. Vous vous souvenez qu'avant, Jésus pouvait faire un miracle et il ordonne sévèrement à ses disciples, il leur dit, vous ne pouvez dire à personne ce que vous avez vu ici. Il pouvait défendre cela à ses disciples. Il pouvait leur dire, calmez-vous, ne dites rien. Mais maintenant ici, il est au soir de sa mission. Il est au soir de sa mission, il se fait voir ouvertement maintenant. Il se fait voir devant tout le monde, devant les rois de Jérusalem, devant la population de Jérusalem, devant tout le monde, que celui le roi. C'est-à-dire, il vient comme un roi conquérant qui a été salué par le peuple selon la coutume qui était là. Alors, toutes les rues de Jérusalem, qui était la ville royale, toutes les rues lui ont été ouvertes. Et la Bible ne nous dit pas qu'il a été arrêté. Même le roi et tous les autres, tous, ils l'ont vu passer. Ils l'ont vu passer. Alors, en tant que roi, c'est là où maintenant que les choses de Dieu ne sont pas vues comme nos choses, nous qui sommes des hommes. Comme il est roi, Il n'est pas monté au palais royal d'Hérode, mais il est allé dans son palais. Il est allé dans son palais. Ce n'est pas un palais temporel, mais son palais, c'était un palais spirituel. Et c'était le temple. Parce qu'il est le roi. Il a vu, quand j'arrive à Jérusalem, la première chose à faire, c'est de présenter mes civilités là où il y a mon temple, là où il y a mon palais. Parce que le royaume de Jésus, ce n'est pas un royaume temporel, comme nous voyons, mais c'est un royaume spirituel. Le peuple l'a loué. Le peuple l'a adoré. Oui, ils avaient raison parce que lui seul en est digne. Oui, Jésus était digne de cette adoration, de cette louange-là. Et comme il en est digne, il ne défend plus à ses disciples de l'adorer ouvertement. Mais il le permet de crier de louange d'une manière ouverte. Jésus entre comme le roi qui entre ouvertement. Ah, voici les contrastes maintenant. Si ces gens ont loué Jésus-Christ quand il entre à Jérusalem, ce n'est pas parce qu'ils le reconnaissaient comme leur sauveur. Ce n'est pas parce qu'ils le reconnaissaient comme leur sauveur, celui qui devait le sauver du péché. Mais ils l'ont accueilli parce que dans l'Ancien Testament, ils attendaient un Messie roi de la lignée de David qui devait combattre. Quand Jésus est né, et durant tout son ministère, même jusqu'à sa mort, tout le monde méditerranéen était occupé par les Romains. C'était les Romains qui dominaient. Le Juif était aussi dominé par les Romains à cette époque. Alors le Juif savait que le Messie roi qui viendrait de la lignée de David serait celui qui viendrait avec une forte délégation. Des gens, il va mobiliser les gens pour qu'ils marchent contre la domination romaine. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et Jésus les a déçus. Jésus les a déçus parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient de lui. Ils savaient que ça sera un grand libérateur, mais ça n'a pas été possible. Je crois que c'est à cause de ceci. Ces gens, quand ils entraient, ils l'ont loué. Ce sont eux qui ont chanté « Hosanna, Hosanna » au fils de David. Celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'ils reconnaissaient que c'est le fils de David et qui vient combattre cette même population. Ce même peuple a abandonné Jésus. Parce qu'ils ont vu que Jésus n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Lui, il vient pour ceci et il pense autre chose. Ces mêmes personnes qui ont chanté « Hosanna, Hosanna » au fils de David, ce sont les mêmes personnes. Ils ont chanté les dimanches « Hosanna » au fils de David. Les mêmes personnes, après 4 jours, les jeudis, ils ont chanté, ils ont dit « Crucifiez-les, crucifiez-les ». Quelquefois, il faut faire attention aux gens qui nous louent. Les gens nous adorent. Les gens nous estiment. Les gens, ils veulent que nous puissions voir qu'ils nous portent dans leur cœur. Mais une fois être dans la position où ils ne trouvent plus d'intérêt en vous, ils vont vous crucifier. C'est possible que les gens vous crucifient. C'est possible que les gens disent « Oule hastahili tena ». Une autre chose que nous devons tirer là, c'est que pourquoi ces gens ont crié « Crucifiez-les ». Parce que quand Jésus arrive, il les loue, il l'adore, parce que ils ont vu que celui qui sera la solution à leur problème. Oui, bon, c'est vrai. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, c'est ce que nous disons aussi, que Jésus, Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. Mais est-ce que Dieu, il est toujours le Dieu des problèmes? Est-ce que Jésus est Dieu des solutions? S'il est le Dieu seulement de nos problèmes, celui qui nous amène seulement des solutions à nos problèmes, au moment où nous ne trouverons pas la solution à notre problème, nous allons le nier. Nous allons le nier et dire il n'existe pas ou il est menteur. Nous ne devons pas prendre Dieu comme bouche-trou, si je peux le dire de cette manière-là. Bouche-trou, ça veut dire quoi? Tu marches en cours de route. Tu marches à cours de route, tu marches à cours de route et tu trouves un trou. Tu ne peux pas sauter. Et là, maintenant, tu vas utiliser Dieu. Tu vas dire, en tout cas, ce trou est trop profond. Il faut le remplir pour que je passe. Et tu passes. Après ton passage, tu ne te souviens plus qu'il y avait un trou. Et que tu as utilisé autre chose pour que ce trou-là soit rempli, pour que tu passes. Il y a des gens, lorsque nous sommes en problème, c'est lorsque nous sommes en problème que nous reconnaissons que Dieu est capable de faire quelque chose. Et nous l'appelons. C'est pourquoi moi je suis contre toujours cette manière de dire « tombe sana ». Est-ce qu'il y a un moment où on doit tombe sana? Et notre moment, bon, on peut prendre ça à la légère. Y a-t-il un moment? La Bible dit « priez sans cesse ». Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit « prions beaucoup ». Il y a le verset qui dit « prions sans cesse ». Ce qui signifie que la prière, l'appel de Dieu doit faire partie de notre vie quotidienne. À chaque instant de notre vie. D'ailleurs, nous le disons souvent, nous entrons souvent dans ce piège. Il y a des moments où nous disons « Marahio apa, Mungu tu ». Bon, et pendant les autres moments-là, c'était qui? C'était vous ou c'était Mungu tu ou c'était comment? Il ne faut pas penser que le Seigneur a un moment où il peut intervenir. Et un autre moment, c'est vous qui allez intervenir. Non. Nous devons nous soumettre entièrement à Dieu, tout en sachant que celui qui intervient, ne le prenons pas comme un bouche-trou. Donc, il y a une difficulté qui arrive et je prie beaucoup, comme nous le disons souvent. Et comme lui aussi, il est miséricordieux, il vient et il remplit ce trou. La difficulté passe, et toi tu passes. Tu oublies, et tu continues encore avec tes propres efforts. Quand tu seras devant un autre trou, tu l'appelles encore. Non, le Seigneur n'est pas là comme quelque chose que nous utilisons pour qu'il nous accompagne. Non, c'est son devoir, et ce qu'il cherche chez nous, c'est la soumission. Reconnaître sa suprématie. Reconnaître qu'à toutes circonstances, celui qui règne. Celui qui règne à toutes circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre ministère, comme ceux qui ont dit « Hosanna, Hosanna », ce sont les mêmes personnes qui ont dit « Crucifiez-les, crucifiez-les ». Dieu nous appelle au ministère. Sachez qu'il y a un problème lorsque nous travaillons pour Dieu. Je vais vous donner l'exemple ou le modèle de la vie des pasteurs, ici chez nous, même dans tout le monde entier. Comment nous considérons les pasteurs? Comment nous considérons les ministres de Dieu? Comment nous les louons? Comment nous les estimons? Quand nous voyons un pasteur arriver, un nouveau pasteur arriver dans l'église, qu'est-ce que nous attendons de lui? Souvent, nous avons un catalogue que nous pouvons dire, comme il est là, il va nous aider à faire ceci. Le jour où il ne sera pas capable de le faire, vous allez dire, crucifiez-le. Bon, ça, c'est un terme de la Bible. Vous allez dire, crucifiez-le. Voici ce que nous attendons souvent du pasteur. Je sais que ceux qui sont sur WhatsApp ou autre chose peuvent avoir déjà lu ça. Et c'est vrai. C'est ce qui est vrai. Il est polyvalent. Il n'est pas comme celui qui a fait la médecine, il est seulement médecin. Mais le pasteur, quand il est à l'église, on entend de lui la prédication. Et il faut qu'il prêche et les gens disent oui. On attend du pasteur un modèle à suivre. Le modèle à suivre. À part ça, le pasteur, c'est un père. Il a aussi une famille. Il a aussi une femme, c'est un mari. On attend du pasteur des conseils. C'est un conseiller. C'est aussi un conférencier. Les conférences. On attend de lui la planification. Il doit planifier comment on va atteindre tel ou tel autre objectif. C'est un ministre. Celui qui doit avoir la vision, c'est un visionnaire. Celui qui dirige, c'est un directeur. Il est aussi mentor. Il doit aussi être ami de tout le monde. Peu importe votre tempérament, le pasteur doit être votre ami. Réconciliateur. Amusikilizane, il doit être là. Il est juge à tout. Pour le mariage, il est le conseiller du mariage. Il conseille la jeunesse. Il est le formateur de tous les chefs de ministère dans l'église. Comme celui qui a étudié la Bible, il est considéré comme le maître de la Bible. Donc, il doit nous parler de la Bible. Il est aussi intercesseur. Il doit intercéder pour les gens. Ce pasteur-là, c'est aussi un médecin. Quelquefois, je deviens médecin ici, les dimanches. Les gens peuvent venir dire, pasteur, tu as un alôme. Bon, je me dis, les médecins, les Jérôme, Mungasola et les autres, mais ils viennent là chez moi. Je dis, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et je vais faire tout pour que ne se me croise. Et il faut qu'ils sortent de là à l'aise, étant à l'aise. Il est aussi psychologue, le pasteur. À plus de cela, il est aussi le gardien du temple. Ne vous étonnez pas si quelqu'un trouve, si cet instrument se perd ici. Ne vous étonnez pas si on vient demander au pasteur comment il les baffle les potets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que avant de sortir du temple ou de l'église, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a bien fermé les portes? Oui, celui-là, c'est le pasteur. Il est aussi le chauffeur. Le pasteur est aussi chauffeur des gens. Il est chauffeur aussi des amis, des frères. Quand on sort d'ici, ok, pasteur, ni bébé, fassifla. Et si je refuse, je ne peux pas refuser. Je dois faire ce travail-là. Serviteur fidèle. Quand on dit que le pasteur, il est serviteur. Hein? Être serviteur, ce n'est pas un titre honorifique. Si tu veux avoir de l'honneur, il ne faut pas être serviteur, il ne faut pas être pasteur. Parce que pasteur, chez nous, on dit « moutoumiche ». Nous faisons souvent un contraste. Tu peux saluer un moutoumiche et tu le salues avec honneur. Hein? C'est peut-être maintenant là le paradoxe que Jésus dit « si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ». Malgré le fait qu'il soit serviteur, mais Jésus, il est prêt même à honorer. Ce sont les honoraires peut-être que nous recevons, mais on est serviteur. Quand nous avons séminaire ici, par exemple, le prédicateur que nous avons appelé, il n'a pas de véhicule. On dit non, il n'est pas arrivé ici à pied alors que la paroisse a un véhicule. On peut se limiter là. Mais on ne se dit pas maintenant quel est le chauffeur qui va le faire. Parce qu'on sait que c'est le pasteur, le chauffeur. À l'aller comme au retour, il va le faire. Ne m'interprétez pas mal. Nous ne sommes pas en train de nous plaindre. Je suis en train de vous parler du travail du pasteur à l'église. À l'église, le pasteur aussi, c'est un agent personnel de nettoyage. L'hygiène partout ici. Parce que si quelqu'un arrive et il n'y a pas d'hygiène, on peut aussi demander au pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Chaque jour, vous venez au bureau et maintenant, il y a de la saleté. Et dans tout ça, les critiques aussi viennent après. Le pasteur, il ne me rend jamais visite. Ce sont des critiques. Quand il prêche, on n'a jamais été béni. Si vous saviez d'où vient la prédication, vous alliez vous repentir si un jour vous aviez dit que je n'ai pas été béni. Il faut demander à celui qui a déjà prêché un jour. Même quand vous, on vous dit la cellule, ces jours-là, vous allez nous conduire par la méditation, vous allez dire non, je ne suis pas capable de dénicher une bénédiction dans un verset. Et maintenant, c'est vous qui vous dites, en tout cas, quand celui-là prêche, on n'écoute rien. Non, non, sinon toi aussi tu as un problème, parce que même si quelqu'un parle très mal dans la prédication, pendant 30 minutes, le Saint-Esprit n'est pas manqué à te montrer une chose. Les critiques, on dit aussi que non, les cultes sont toujours très longs. Quand il est là, en tout cas, nous nous ennuyons à cause des choses comme ça. Là, on parle seulement du pasteur à l'église. Si on va à la maison, vous exigez ce que vous n'exigez pas à vos enfants, vous les exigez aux enfants des pasteurs. Non, les enfants des pasteurs doivent être modèles. Les enfants des pasteurs, sachez que les enfants des pasteurs ne sont pas des pasteurs. Ce sont les enfants des pasteurs. Même les pasteurs, à cause de lui, certains frères et sœurs sont ennuyés et ils ne viennent plus à l'église. Parce que le pasteur a fait ceci, a fait cela, ou a dit ceci, ou a fait cela. Alors, tout ça, c'est ce que nous attendons souvent à des gens. Ici, j'ai seulement parlé du pasteur. Toi aussi, tu peux parler de ton mari. Tu peux parler de ta femme. Quand tu as eu ta femme, qu'est-ce que tu attendais de cette femme-là? Est-ce que tu ne te plais pas? Le jour du mariage, c'était vraiment comme il faut. Et maintenant, tu as commencé à dire « crucifiez-la ». Crucifiez-la ou crucifiez-les. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encourager toute personne qui travaille pour Dieu. Lorsque nous nous engageons à travailler pour Dieu, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous nous sommes engagés à travailler pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour Dieu et les autres ne travaillent pas pour Dieu. Il y a une vocation générale que nous tous nous avons reçue. Bien sûr, à part cette vocation, il y a une vocation spéciale que quelqu'un peut devenir pasteur, quelqu'un peut devenir dirigeant des jeunes, dirigeant des mamans, et ainsi de suite. Donc, je voudrais nous encourager les uns les autres que lorsque nous faisons le travail de Dieu, nous devons savoir que nous ne serons jamais encouragé ou aimé par tout le monde. Jésus, il est aussi Jésus, il est aussi Dieu. Même aujourd'hui là, Dieu qui est au ciel, il n'est pas aimé par tout le monde. Alors que tout le monde, ce sont ses créatures. Il pouvait imposer l'amour, il pouvait imposer. Alors si c'est comme ça, chez Dieu et chez nous les hommes maintenant, dans le ministère que vous exercez, à l'école de dimanche, chez les couples, même là où vous travaillez à la fonction publique de l'État, vous travaillez, je ne sais pas, à l'hôpital, vous travaillez, vous êtes enseignant, le ministère que Dieu vous a donné là, ce ministère-là, ne sera jamais aimé par tout le monde. Mais Dieu sait honorer ses serviteurs, ceux qui les servent avec fidélité, ceux qui les servent avec humilité. Le Seigneur sait les honorer. Il sait comment il marche avec eux. Et donc, si vous trouvez quelqu'un en train de faire le travail de Dieu, partout il peut le faire. Le travail de Dieu ne se fait pas seulement à l'église. Tu es chrétien, dans ta salle de consultation, tu fais le travail de Dieu. Quand tu fais le travail de Dieu, sache que tu es aussi humain. Et les autres qui y arrivent, ils doivent aussi savoir que vous êtes humain. Vous êtes humain. Et vous avez aussi le même besoin que. Vous avez aussi le même besoin que. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit avant, l'entrée triomphale de Jésus en Jérusalem est riche à contraste dans la vie du croyant. Le roi ici qui entre à Jérusalem, vous savez pourquoi je dis, il n'est pas venu, il n'a pas été à la hauteur des attentes parce que les gens l'attendaient, ils croyaient qu'ils seront libérés de la servitude des Romains. Mais lui, il est venu comme un humble serviteur. Le roi qui vient comme humble serviteur, qui est monté sur un âne, pas sur un cheval galopant. Ces gens aussi n'ont pas su lire la signification des choses. Quand quelqu'un vous vient, il est assis sur un âne. Ça symbolise la paix. Si quelqu'un vient sur un cheval, ça symbolise la guerre. Si Jésus était venu sur un cheval, ces gens auraient raison. Mais il est venu sur un âne, ce qui symbolise que je viens en paix. Je ne viens pas avec des autoblénés. Jésus même, il ne portait pas des habits royaux, même s'il est venu en roi. Il avait des vêtements pauvres, des tuniques pauvres, des vêtements humbles. Ça veut dire, même s'il est entré en conquérant à Jérusalem, il n'est pas venu au même moment en conquérant pour dominer sur les forces terrestres. Les forces, ici je parle donc les forces politiques de l'époque. Jésus vient avec amour, il vient avec grâce, il vient avec miséricorde pour se sacrifier lui-même pour son peuple. Le roi qui vient se sacrifier pour son peuple, ce n'est pas ce roi qui vient régner et dominer sur son peuple. Et c'est ça la différence de la royauté de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui veulent servir sous Jésus-Christ doivent être caractérisés par la simplicité, doivent être caractérisés par l'humilité, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été orgueilleux, même si il occupe la position qui peut l'amener à être orgueilleux. Parce qu'il n'est pas venu à la tête d'une armée triomphante, mais c'est un simple serviteur qui arrive. Il n'est pas là pour conquérir les nations, mais Jésus arrive, un roi, pour conquérir nos esprits et nos âmes, nos cœurs. Son message est un message de paix. La paix avec Dieu, ce n'est pas une paix temporelle. Le roi qui vient travailler pour la paix, il n'est pas venu pour la paix temporelle, mais son objectif, c'est de s'apesantir sur la paix que tu peux avoir avec Dieu. S'il a effectué son entrée triomphale dans nos cœurs et il règne avec amour et paix, ça suffit pour lui. Et le jour où nous saurons cela, nous allons grandir dans la foi. Ça veut dire, nous les disciples, nous devons aussi manifester les mêmes qualités pour que le monde voit que le roi véritable vit et règne en nous. Ce Jésus, comme je l'ai dit hier, quand il nous restaure, il nous permet à ce que nous puissions aussi travailler et qu'il restaure d'autres personnes à travers nous. C'est pourquoi il a envoyé. Jésus connaît la théologie de la voix. Il a été envoyé et lui aussi il envoie. Tout en sachant qu'il n'est pas difficile à Dieu ou à Jésus de faire ce travail seul. Il nous fait participer à ce travail. Et c'est ça ce que j'ai appelé le privilège de ce travail-là. Nous avons lu à Luc. Nous avons lu Luc, le chapitre 10. Jésus envoie ses disciples. C'était 70 personnes et il les a envoyés deux à deux. Il les envoie deux à deux. Et quand il les envoie, ce qui s'est passé là où ils sont partis, ils ont guéri le malade, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons et ils sont revenus auprès de Jésus avec joie, une grande joie. Et ils avaient raison. Ils avaient raison d'avoir cette joie-là. Mais nous devons savoir que Jésus nous envoie dans la simplicité. Jésus nous envoie dans l'humilité pour le salut du monde. Et ceci uniquement pour sa gloire. Si Jésus opère quelque chose en nous, ça n'a jamais été pour notre gloire. La gloire revient toujours en Jésus-Christ. C'est pourquoi en Luc 10, 17 et 20, il y a deux sortes de joie que nous pouvons aussi avoir. La première joie, c'est la joie du travail, le travail que Jésus t'a donné, le ministère que Jésus t'a donné, réussi ou produit des fruits. Tu as raison de te réjouir. Tu as raison de te réjouir. Les disciples sont venus dire à Jésus, les démons nous ont été soumis. Nous avons guéri le malade. Nous avons chassé. Nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Jésus aussi a confirmé. Il a dit, oui, je voyais aussi le diable tomber du ciel de tout ce que vous avez fait. Donc, il les confirme, mais il leur dit, soyez plutôt heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous pouvons faire de grandes œuvres. Cette manière d'agir de Jésus montre qu'il est possible que quelqu'un fasse des miracles sans être inscrit dans le livre, sans être inscrit au ciel. C'est pourquoi nous ne devons pas être emportés par n'importe quel harmattan. N'importe quel miracle qui peut être produit par des pasteurs, des prophètes, les gens, ils sont là, ils viennent, ils font des miracles. Il est possible que quelqu'un fasse un miracle sans être inscrit dans les livres de vie. Et Jésus est en train d'attirer notre attention. Tu es ancien de l'Église et ton ministère produit des fruits. Tu es ancien de l'Église et les gens te louent, les gens t'estiment. Les gens disent, celui-là mérite. Jésus est en train d'attirer votre attention de ne pas vous enorgueillir. Ne pas vous enorgueillir parce que la Bible dit encore que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire, la joie éternelle, elle est plus recommandée par Jésus que la joie éphémère, bien qu'importante aussi. La joie éphémère est aussi importante. Nous organisons une campagne d'évangélisation. Et toute la ville, Biréré ville, croit à Christ. Nous avons droit de nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons travaillé. Mais le Seigneur dit, oui, tu as travaillé et les gens sont venus en Christ.
Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie?
J'ai déjà vu, il y a un certain pasteur, c'est un pasteur de Nairobi, je crois, il s'appelle Daniel Ngog. Il a déjà prêché, déjà suivi une partie de sa prédication, il dit, il est possible que nous allions chercher les gens. Nous allons chercher ceux qui sont perdus. Et toi aussi, tu te mets parmi ceux qui vont chercher, pendant que toi aussi, tu es parmi ceux qui doivent être cherchés. Et ça sera grave. C'est grave. Lorsque tu es parmi ceux qui peuvent être cherchés, mais tu deviens parmi les chercheurs, alors que toi aussi, tu dois être cherché. C'est pourquoi Jésus est en train de nous dire ici, réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans le ciel. Ça veut dire la réussite dans le ministère, les fruits du ministère. Vous êtes chantre, vous chantez, la voix est angélique et les gens sont bénis lorsque vous entonnez ici. Jésus nous dit que nous devons faire attention. Faisons attention. Réjouissons-nous, pas parce que les gens sont contents lorsque nous entonnons la louange et l'adoration, mais réjouissons-nous parce que notre nom est écrit dans le ciel. Donc, lorsque nous travaillons et que notre ministère produit des fruits, c'est bon, mais c'est aussi un piège qui peut nous amener à nous enorgueillir. Vous savez, même chez nous, dans le ministère pastoral, je vois souvent des pasteurs ici qui se bagarrent. Ils se bagarrent et quelqu'un dit, en tout cas, où l'église en a fondé chaque, n'a mis en attaque un d'agoule n'a un d'amuzima. C'est nous les quatre de maintenant. Quelqu'un dit ça. C'est nous les quatre de maintenant. Est-ce que nous savons que ce que nous faisons, c'est le travail de Dieu? Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui doit y tirer gloire. Quelqu'un d'autre ne peut jamais tirer gloire parce que nous sommes des simples serviteurs. C'est par la grâce que le Seigneur nous a, il nous fait participer à son ministère. Vous savez, il y a quelqu'un, c'était un pasteur baptiste indépendant. Il s'appelait Mordecai Ham. Ce pasteur, c'est un Américain. Il a fait de l'argent, il a organisé une campagne d'évangélisation. Il organise une campagne d'évangélisation. Il a déjà dépassé beaucoup d'argent. Quand il arrive au moment de faire l'appel, ceux qui ont cru, personne ne vient. Il prêche la sueur des sangs. Il prêche. Et il dit, maintenant c'est le moment où qui donne sa vie en Christ? Personne. Personne ne donne sa vie à Christ. Et il est déçu. Un jour, il a encore organisé la campagne d'évangélisation. Il a prêché. Vous savez, même les enfants, quand nous prêchons, eux, ils viennent déjà devant, même avant qu'on ne les appelle. Les enfants sont venus là-devant. Et parmi ses enfants, il y avait un enfant de 12 ans. Et il a prié, il n'était pas satisfait. Comment ces enfants peuvent venir? Alors qu'il y a une grande majorité de personnes qui sont là. Ils ne viennent pas. Mais vous savez qui est cet enfant de 12 ans? Cet enfant de 12 ans qui était là ce jour-là et qui avait donné sa vie en Christ ce jour-là, c'est Billy Graham. Et vous connaissez les œuvres de Billy Graham. Il y a des fois où nous pouvons voir que nous sommes déçus par notre ministère, mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. À travers cet enfant-là, il y a maintenant plusieurs personnes qui sont venues en Christ. Alors celui qui avait organisé cette campagne d'évangélisation, il ne peut pas se trouver déçu. Je peux même donner l'exemple de Jésus. Jésus sur la terre, quand il a prêché, quand il parlait aux foules,
il y avait 5000 personnes, 4000, les gens qui venaient prendre le pain. Mais il est parti. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Pierre, rempli du Saint-Esprit, inspiré de Dieu, il a prêché. La Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes qui sont venues à Christ. Jésus n'avait jamais réussi à faire croire aux gens. 3000 personnes, il n'avait jamais cru. Mais Pierre l'a fait. Alors, si Jésus pouvait dire « Je suis déçu », mais il savait que, même si je pars, j'ai déjà planté quelque chose ici. À mon absence, ça va pousser, ça va produire des fruits. Donc, le travail que vous faites n'est pas vain. Le Seigneur sait comment il va aider ce travail à produire des fruits pendant votre vivant ou bien même après la mort. Il y a des gens, bon, ce n'est pas aussi bon. Ce n'est pas aussi beau de chaque fois louer les gens après leur mort. Quelqu'un vient de mourir et maintenant vous commencez à dire « Celui-ci qui a fait ceci, celui-ci qui a fait ceci, celui-ci qui a fait ceci. Bon, » mais si ça arrive, je suis en train de vouloir nous encourager de travailler. Partout où nous sommes, travaillons. Tu es prédicateur, travaille. Prêche. Prêche, tu es prédicateur. Même s'il n'y a personne qui se manifeste, prêche. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui sauve les gens. C'est Jésus qui sauve. Prêche, le Saint-Esprit qui est enseignant par excellence, il va continuer à parler dans les cœurs de chacun. Tu t'occupes de la propreté du temple. Occupe-toi de la propreté du temple. Les gens vont venir passer et ils vont encore salir. Peut-être que ton cœur peut ne pas être bon parce que quelqu'un vient de salir. Mais réjouis-toi parce que le Seigneur sait que quelqu'un arrivera ici. À cause de la propreté que tu as faite ici, quelqu'un va croire en Christ. Tu travailles là, je ne sais pas, bon, je peux montrer celui qui est ici à côté de moi. Tu travailles, comment on t'appelle? Derrière la caméra. Travaille derrière la caméra. Travaille, travaille, travaille. Quelquefois, nous qui avons des microphones, nous pouvons dire aux gens, bon, est-ce que vous pouvez nous montrer une diapositive? Ils ne le trouvent pas. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne faites rien. Alors, si les gens peuvent ne pas reconnaître votre travail, mais le Seigneur, lui, reconnaît votre travail. Le Seigneur reconnaît votre travail et il sait comment il va utiliser ce travail pour produire le fruit de votre vivant ou même de votre mort. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage. Travaillons pour le Seigneur, vivons pour le Seigneur, parce qu'il sait que celui qui travaille pour lui, il va l'honorer. Il vous honore et il vous honorera partout. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.